La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure de découvrir la solution du jour avec Elisabeth Assayag.
Et on va trouver du travail en marchant dans la rue aujourd'hui Elisabeth. C'est ce que fait justement une start-up qui s'appelle Ozon.
Ozon avec un Z. O-Z-O-N-S, pas de CV avec Ozon, pas de lettre de motivation, pas de photo. Cette start-up est spécialisée dans le recrutement des profils atypiques dans la rue. Une façon de recruter différemment, de casser les codes du recrutement. Tout se passe dans la rue. Surtout quand on sait que les TPE-PME ont de plus en plus de mal à recruter. D'ailleurs, il y a eu une enquête de Pôle emploi récemment qui a montré qu'un projet d'embauche sur deux est difficile, notamment en cas de besoin de main-d'œuvre. Bonjour Enzong Gueke.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
On Merci à vous.
Ça va très bien se passer.
C'est très gentil. Merci
beaucoup. Vous êtes le cofondateur d'Ozon. Alors, l'idée, faut quand même le dire, elle est partie de la fameuse phrase du président de la République.
Ouais, c'est ça, exactement. C'était une soirée, j'étais avec mon associé qui est en régie, qui filme, qui me regarde là.
Ouais, on le sait.
Comme beaucoup de Français, on est tombé nez à nez avec cette phrase, en fait, et qui nous a beaucoup interloqué.
Il faut traverser la rue.
Je traverse la rue et je vous trouve du travail, exactement. Mmh. Donc, on est tombé dessus. C'était une soirée où on était, une soirée privée. Ça a donné lieu à un débat très animé. Compte tenu de la situation. Donc, on a discuté. À la fin de cette soirée, on décidait, en fait, de créer Ozon.
De là est partie l'idée d'Ozon.
C'est vraiment de là qu'est partie l'idée, ouais. Exactement.
Donc, concrètement, vous vous placez dans la rue.
Exactement.
Avec des offres d'emploi.
Exactement. Alors, peut-être pour vous faire un parallèle, je sais pas si vous avez déjà eu affaire à des donateurs, des recruteurs de donateurs en rue, typiquement pour Médecins du Monde, pour CARE, pour Amnesty, etc.
Voilà.
Nous, en fait, on va en rue, on traverse la rue exactement, littéralement, pour proposer du travail à des personnes qui sont en recherche. On le fait gratuitement.
Donc vous le faites gratuitement, mais comment vous vous organisez? C'est-à-dire que vous allez dans la rue, vous avez des offres d'emploi, ce sont des petites annonces, vous arrêtez les gens, comment ça se passe?
Alors nous, on procède très simplement, on a une approche qui se veut très 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 locale. Donc en fait, il y a une première étape qui est déjà côté entreprise. Pour nous, il s'agit d'abord de recueillir les besoins des entreprises, définir avec elles les zones d'intervention.
Une matière de prospection du côté des entreprises.
Exactement, voilà, qui va nous permettre de définir les profils, d'avoir en fait les informations sur les besoins réels. Et avec ces entreprises, on va définir les zones d'intervention, parce qu'on sait que, les zones d'intervention, les horaires, pour pouvoir toucher un maximum de personnes qui sont en recherche d'emploi.
Alors là, par exemple, en ce moment, vous êtes où? Vous recherchez quoi?
Alors, en ce moment, on travaille avec Suez. On est sur Chanteloup-les-Vignes, donc la ville où a été tourné le film La Haine, par exemple. On est sur Poissy, et on travaille avec ce groupe pour trouver des profils d'agents d'eau, eau et assainissement. Donc là, on est deux semaines en rue pour Suez.
Et vous arrêtez les gens dans la rue? Vous dites que vous recherchez du travail? Alors, comment vous faites?
On arrête les gens. Nous, on arrête les gens sans aucune distinction. L'idée, c'est qu'on n'a pas d'a priori. Justement, quand on parle de sans CV, sans lettre de motivation, sans photo.
Vous leur dites quoi?
On leur demande s'ils recherchent du travail. La première question. Ils nous répondent oui ou non. Si c'est non, bonjour monsieur. Au revoir monsieur, très bonne journée. Si c'est oui, on leur propose de nous accorder 10 à 15 minutes de leur temps. Et là, en fait, avec ces personnes qui sont d'abord des passants, à ce stade-là, ce ne sont pas encore des candidats, on va leur poser une série de questions. Le but est en fait de définir ensemble leur zone de confort professionnel.
C'est-à-dire rapidement le profil?
C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, vous aimez travailler en extérieur ou à l'intérieur? Est-ce que vous êtes plutôt manuel? Est-ce que, quelles sont vos passions, vos hobbies? Et à partir de là, on va définir en fait un profil. Et dès lors que ce profil va matcher avec les offres que nous, on a en interne, va matcher à plus de 50%. Il y a une deuxième étape qui se met en place, c'est-à-dire qu'on va rencontrer dans un second temps ces candidats qu'on va accompagner. On va les accompagner jusqu'à l'entretien. On va les briefer sur l'entreprise, sur l'ADN, sur les perspectives, sur le poste en question, sur les valeurs, sur la philosophie, de sorte que quand ce candidat arrive à l'entretien, il puisse être le plus prêt possible.
Et le candidat de la, qui est le candidat idéal pour l'entreprise.
Le candidat idéal pour l'entreprise, exactement.
Gilles Vanderpotten, notre coach.
Bah, c'est génialement simple, en fait.
Hein, c'est
très
simple.
Du bon sens. Vous allez à contre-courant de toutes les méthodes de data, d'algorithmes, etc. Vous le revendiquez, d'ailleurs.
Exactement.
Mais j'imagine, vous devez convaincre aussi les recruteurs que c'est une méthode, c'est une méthode qui marche.
Alors, nous, nous, effectivement, il faut les convaincre. Alors, nous, on les convainc, mais l'idée aussi, c'est, nous, on a ce terme-là de osons compatible. C'est que l'idée pour nous, c'est évidemment, on doit les convaincre, mais on part du principe que nous, on se positionne comme un acteur parmi d'autres en complément avec ce qui se fait déjà. L'idée pour nous, c'est d'adhérer à nos valeurs. Donc, effectivement, il faut les convaincre. Mais on part du principe qu'on défend des choses sur lesquelles, qui sont chères pour nous, on les présente aux entreprises et il faut que ces entreprises soient osons compatibles avec nous. Et effectivement, on revendique ce principe d'aller en rue, de faire de l'humain, on passe du virtuel au réel. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller en rue, de serrer des mains, de rencontrer, de rencontrer les passants qui seront des futurs candidats et qui auront du travail à court terme. Donc on veut vraiment, ce côté humain est très important pour nous. Donc effectivement, il faut convaincre les entreprises, mais pour nous c'est quelque chose qui est
une démarche humaine.
C'est une démarche humaine,
c'est les échecs, elle est efficace,
éthique et bienveillante
et simple. Ouais. Osons avec un Z. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette solution aujourd'hui
merci
en direct sur Europe 1. Il est midi 58.
Europe 1.
Faire face à la douleur quand on est malade, c'est une problématique. Comment aider les patients ? On ouvre le dossier ensemble dans quelques minutes sur Europe 1.
Aux côtés des chefs d'entreprise et de leurs équipes, AXA Prévention vous présente La France Bouge.
Europe 1, midi 14h, La France Bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans La France Bouge. On va s'arrêter ensemble sur les solutions qui nous permettent de gérer la douleur. C'est vrai que c'est un problème très concret pour le milieu médical et vous allez voir que la recherche française a pris la question très au sérieux. Quelle est en mesure aujourd'hui d'apporter de nouvelles réponses, que ce soit dans l'évaluation, le traitement ou bien la gestion de cette douleur ? Bonjour Jacques Husser.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de Remedy Labs. Ça s'écrit REMEDLABS. Et vous avez mis au point un stimulateur d'endorphine par onde millimétrique. Alors c'est vrai que ça paraît très compliqué quand je le dis comme ça, mais vous allez tout nous expliquer. C'est une pratique qui en fait était très utilisée dans les hôpitaux notamment pour remplacer ce qui aujourd'hui se soigne avec des antalgiques. Mais c'est une méthode qui a été un peu délaissée.
Oui, tout à fait. C'est effectivement... Les pays de l'Est qui ont, à l'époque, dans les années 70, donc ça remonte à longtemps, ont découvert, on va dire, cette pratique par hasard. Hein, c'est un peu comme l'histoire du micro-ondes où, en fait, on a laissé son sandwich et on a découvert que le sandwich chauffait. Et là, en fait, les Russes ont découvert que les soldats se sentaient mieux quand ils étaient devant des antennes radars d'un certain type qui utilisaient ce qu'on appelle les ondes millimétriques, qui sont en fait des ondes de très haute fréquence. Voilà le principe.
Donc ça, c'était utilisé dans les hôpitaux. Vous vous êtes dit, on a oublié finalement, on a mis de côté cette sorte de thérapie. Pourquoi ne pas la remettre au goût du jour ? Mais ça vous est pas venu comme ça. Hein. Vous vous êtes dit, on va essayer de faire en sorte que on mette des récepteurs sous l'épiderme.
Alors,
de parler directement avec les récepteurs qui sont sous l'épiderme.
Voilà, c'est ça exactement. C'était en fait le principe, c'est un signal électronique de très haute fréquence. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça les ondes millimétriques, qui va stimuler des récepteurs sous la peau, donc environ à 1 mm sous la peau, là où se trouvent les récepteurs de la douleur. Et en fait,
les ondes envoient un message au capteur.
Envoient un message au capteur qui est le récepteur de la douleur, qui lui va envoyer un message au cerveau pour dire maintenant il faut lâcher l'endorphine.
Alors l'endorphine, c'est important, on va peut-être expliquer ce que c'est pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas.
Oui, alors en fait l'endorphine c'est un produit qui se diffuse dans le cerveau, qui est, alors pas que dans le cerveau, mais dans notre cas c'est essentiellement dans le cerveau, qui va avoir une notion d'antalgique et qui va être l'antalgique naturel du corps. Et la beauté finalement dans notre principe, c'est qu'on utilise ce qu'on a déjà en nous, on n'ajoute rien, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure.
À l'époque, donc, vous l'avez dit, on était en milieu hospitalier. Là, vous, votre idée, c'est d'aller directement toucher chacun d'entre nous quand, ouais, quand on souffre. Comment est-ce que vous avez miniaturisé le procédé?
Ouais, alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les années 70, effectivement, c'était des grosses machines.
Grosses machines,
voilà, oui. On rentrait un peu comme dans un scanner, en fait, pour se faire traiter. On passait 30 minutes à l'intérieur, on recevait sa dose d'onde millimétrique et on rentrait à la maison. Et puis, les médicaments sont arrivés dans ces pays-là.
Les fameuses antalgiques.
Voilà, les fameuses antalgiques. Et donc, les pays de l'Est, le bloc de l'Est, a utilisé les antalgiques comme les autres pays de l'Ouest, hein, et les États-Unis. Et donc la chose est tombée en désuétude. Ça a été oublié. Et donc c'est par hasard en fait qu'on est retombé sur ce principe-là.
En 2015.
Principe-là. Hein. En 2015, oui. Assez drôle d'ailleurs parce que en fait c'est une arme qui a été développée par les Américains qui utilisent le même principe, mais dont l'objectif est de provoquer de la douleur. C'est une arme de dissuasion de foule. Et en fait mon associé s'est retrouvé dans le contexte du service de santé des armées à analyser cette arme. Et en fait, a redécouvert cette thérapie par onde millimétrique et a redébobiné en fait toute la chose. Et on a pris conscience qu'aujourd'hui, donc dans les années 2015-2016, on pouvait développer une technologie totalement intégrée à base de silicium, un circuit intégré, une puce, qui allait être toute petite en fait, qui allait permettre de faire le même effet que ce qu'on faisait avant.
Un millimètre carré, c'est ça ? La puce en question. Ouais. Donc vous faites des essais cliniques en 2017 ?
On fait un premier essai en 2017 d'innocuité pour, oui, démontrer alors ce qu'on savait, puisqu'il y a eu des millions de gens qui ont été traités avec ce principe. Mais on a redémontré avec notre technologie qu'effectivement, on n'était pas dangereux, il n'y avait pas d'effet délétère. Et ensuite, on a développé des produits pour pouvoir faire des essais cliniques.
Donc, on s'expose 30-40
minutes, voilà.
Oui, ces ondes, et ça réduit la douleur.
Oui, parce que c'est le temps qu'il faut pour que les récepteurs soient suffisamment stimulés pour envoyer le message au cerveau qui va déclencher l'endorphine, qui va finalement provoquer la sensation antidouleur.
Et on agit sur des douleurs chroniques.
Et on agit sur des douleurs faibles à modérées. On vise plutôt les douleurs chroniques que les douleurs aiguës, parce que là, on est dans finalement la problématique d'utilisation de médicaments en permanence qu'on peut chercher à résoudre par notre mécanistique, en fait.
Alors justement, Elisabeth, combien il y a de personnes qui souffrent de ces fameuses douleurs chroniques en France ?
Ils sont 16 millions en France, 75 millions en Europe. Un Français sur trois souffre de douleurs chroniques. Douleurs chroniques, ça peut être d'intensité modérée, hein, à très sévère, hein, douleurs quasiment invalidantes. Et on qualifie les douleurs chroniques, ces douleurs permanentes, récurrentes, qui durent plus de 3 mois.
Et qu'est-ce que c'est ces douleurs chroniques? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner?
Oui, il y a des exemples, elles peuvent prendre plusieurs formes. Hein. Ça peut être la fibromyalgie, douleurs chroniques en continu, des maux de tête persistants, des sevrages quand on essaye de se sevrer, quand on a consommé des stupéfiants, des lumbagos, des sciatiques opérées, des séquelles, des conséquences de la chimiothérapie, des douleurs rhumatologiques, des douleurs de règles. Les douleurs chroniques, ça peut être tout un tas de...
Le panel est très large.
Très très large.
Que dit notre coach de cette trouvaille de...
Oui.
Hein, bah, il s'interroge. Il pensait miniaturiser, oui, quand même.
Le fait de stimuler par les ondes, est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui de dire que c'est plus efficace ou aussi efficace que les antalgiques qu'on évoquait, que les solutions médicamenteuses? Est-ce que vous avez aujourd'hui des preuves ou des comparatifs qui permettent de dire...
Alors, aujourd'hui, on a l'historique, en fait, hein, puisque, comme, ouais, je le disais tout à l'heure, c'est plus de 3 millions de personnes qui sont reportées avoir été traitées, hein, avec ces principes-là. De là à savoir si c'est plus ou moins efficace, je parlais tout à l'heure de douleurs à faible à modérée, donc on est sur de l'antalgique qui va permettre de traiter ce type de douleur. On ne remplace pas la morphine, même si aujourd'hui, on a un test clinique en cours pour essayer de démontrer qu'on va sous-consommer de la morphine après une opération. Donc, ce qui est très intéressant, d'accord, parce que finalement, aujourd'hui, après une opération cardiaque, en l'occurrence, dans notre cas, il y a des grosses douleurs, et on va essayer de démontrer que le patient va pouvoir utiliser moins de morphine, ce qui serait un énorme gain
tout
pour
à fait
lui.
Ouais.
Vous avez transposé cette innovation dans un bracelet, c'est ça ?
Oui, alors en fait, disons qu'on a fait un premier véhicule de test, on va l'appeler comme ça, un premier, oui, produit de test qui nous permet de faire des essais cliniques.
Parce qu'on est sur le poignet.
Exactement.
Et qu'il y a beaucoup de terminaisons nerveuses.
Exactement. Voilà, les paumes de la main sont très fortement innervées. Il se trouve qu'au poignet, il reste beaucoup de terminaisons nerveuses. Et donc, le bracelet a aussi l'avantage de la praticité. Donc, n'importe qui peut mettre notre produit dans le futur, appuyer sur le bouton, attendre 30 minutes et voir sa douleur baisser.
On reste ensemble et on continue à parler traitement de la douleur aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h18.
Europe 1.
Et si l'endorphine pouvait être mise en capsule, c'est ce que veut faire l'Institut Gallien pour créer des nanomédicaments. À tout de suite.
comment gérer la douleur. On en parle cet après-midi dans La France Bouge. Si vous souhaitez réagir, appelez-nous au 3921 ou alors écrivez-nous sur Twitter, hashtag Europe 1 FM.
Oui, nous avons déjà tous pris des traitements contre la douleur. Or, il n'y a pas qu'une forme de douleur, hein, mais plusieurs. Et selon l'origine, la pathologie, il faut évidemment adapter la réponse. Bonjour Patrick Couvreur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes professeur de pharmacie à Saclay, membre de l'Académie des sciences, président de l'Académie nationale de pharmacie. Et vous travaillez à la création d'un nanomédicament ou deux nanomédicaments. Tout part en fait d'une histoire personnelle, je crois, hein, puisque vous avez eu quelqu'un de très proche dans votre famille qui a été obligé de gérer une douleur chronique après une opération. Et c'est là que vous vient l'idée de ces fameux nanomédicaments.
Oui, associé au fait aussi que je fais pas mal de sport. Et vous savez que quand on fait du sport, à condition qu'il soit suffisamment intense et suffisamment long, eh bien, on se sent bien. Après, on a un sentiment de bien-être. Et ceci est dû, en fait, aux endorphines dont on vient de parler, plus spécifiquement aux encéphalines. Alors, vous savez qu'actuellement, le traitement de la douleur pose un problème majeur, en particulier quand on utilise des opiacés, des dérivés de la morphine. Il y a des phénomènes d'addiction, de tolérance, de dépression respiratoire. Et pour vous donner un chiffre, aux États-Unis, vous avez 11 millions de patients qui sont addicts, qui sont dépendants des opiacés, de la morphine ou des dérivés de
donc
la morphine.
Donc dépendants des traitements.
Dépendants des traitements sur prescription médicale.
Donc, en partant de ce constat, oui. Vous vous dites qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec ces endorphines. Il y avait eu des essais, hein. Il y avait des laboratoires pharmaceutiques qui avaient commencé à réfléchir, mais ils n'arrivaient pas à encapsuler cette fameuse endorphine.
Exactement. Alors, le problème, c'est que on peut administrer de l'endorphine, mais quand on administre des endorphines ou des encéphalines à un patient douloureux, cette molécule va être directement métabolisée, c'est-à-dire dégradée dans l'organisme. Et elle ne pourra donc pas exercer son activité antidouleur.
Donc il fallait trouver une solution pour la protéger.
Exactement, il fallait trouver une solution pour la protéger, pour administrer ces endorphines sans qu'elles soient dégradées, métabolisées dans l'organisme. Et c'est ce que nous avons fait en développant une technologie. Alors excusez-moi de parler un petit peu de chimie, mais on s'est dit on va coupler une endorphine qui est la leucéphaline, qui est une endorphine très importante, avec un lipide qu'on a tous dans notre organisme, qui est le squalène, qui est un lipide naturel, biocompatible, qui est le précurseur de la synthèse du cholestérol.
Donc c'est ce lipide-là qui lui sert d'enveloppe.
Exactement, c'est ce lipide-là qui a une conformation moléculaire extrêmement compacte, qui va en fait encapsuler l'encéphaline, permettre son administration sans dégradation et permettre surtout la libération de ce neuropeptide au niveau de la douleur.
Ça veut dire que ça va aller directement cibler la zone du cerveau qui gère l'inflammation, par exemple ?
Alors, justement, pas la zone du cerveau. Vous savez, quand vous avez une douleur,
on va directement sur l'endroit où on a mal, alors.
Voilà, vous allez directement à l'endroit, ce que l'on appelle l'endroit périphérique, où effectivement, il y a une douleur, notamment inflammatoire. Et du fait qu'on a une structure nanoparticulaire, on peut parler de taille après, on ne passe pas ce que l'on appelle la barrière hémato-encéphalique, qui est la barrière entre le sang, là où on va injecter les nanoparticules, et le cerveau. Donc on n'a pas d'activité dite centrale, mais on va agir au niveau périphérique, au niveau des récepteurs, aux opiacés périphériques. Et donc on va éviter, par ce biais-là, les phénomènes d'addiction et de tolérance.
Donc ça peut remplacer une prise de morphine, par exemple, ou en tout cas en diminuer la quantité ?
Alors l'idée à terme, c'est de remplacer l'utilisation des opioïdes par finalement ce traitement à la base d'un opioïde naturel qui ne donne pas d'addiction, puisque tous les gens qui font du sport ne sont pas addicts quand ils ont libéré des endorphines.
Vous en êtes où pour l'instant ? Parce que je crois que ça a été testé, il y a eu des études chez l'animal, les résultats ont été publiés l'année dernière,
tout à fait.
C'est positif.
Cette année, les résultats ont été publiés cette année dans une revue américaine très connue, Science Advance, et actuellement, on est ce que l'on appelle en préclinique. Vous savez que le développement d'un médicament, on commence d'abord par faire des essais dits précliniques, c'est-à-dire chez l'animal, et donc là, on a des résultats tout à fait spectaculaires. En particulier, on a montré qu'on réduisait clairement la douleur des animaux, qu'on avait une réduction de douleur qui est très prolongée par rapport à la morphine, ce qui est un gros avantage. Et on a montré par imagerie, quand on marquait ces nanoparticules de manière fluorescente, qu'on allait cibler effectivement la petite zone qui était douloureuse inflammatoire.
Donc ça, c'est chez la souris, en l'occurrence
Chez le rat et chez la souris. On a fait à la fois rat et souris.
Chez l'homme ?
Alors, pour passer à l'homme, il faut d'abord faire ce que l'on appelle un lot clinique. parce que vous comprenez bien que quand on synthétise, je vais dire 15 ou 100 mg de ces nanoparticules, et qu'on va traiter une souris et qu'on doit administrer 15 mg par kilo, une souris faisant 20 grammes, on peut traiter énormément de souris. Une fois qu'on passe à l'homme, l'homme il fait 70 kilos et on doit évidemment synthétiser des quantités beaucoup plus importantes. Donc on doit faire ce que l'on appelle une transposition d'échelle. Mmh. Et puis il va falloir faire aussi, ben, comme ça a été dit d'ailleurs précédemment, une étude toxicologique réglementaire sur deux espèces animales, un rongeur, un non-rongeur, avant de passer aux essais cliniques.
Notre coach, Gilles Vanderpoten.
Une question toute simple, à quoi ressemble un nanomédicament? Quelle taille ça a?
Alors, quelle taille ça a? C'est évidemment très petit, ça, tout le monde le sait. Oui. Alors, vous savez qu'un globule rouge fait 7 microns. Et donc, une nanoparticule va faire 0,1 micron. Donc, on est à une taille qui est 70 fois plus petit qu'un globule rouge. Mais on est à une taille qui est beaucoup plus grosse qu'une molécule. Mmh. Une molécule est beaucoup plus petite parce que les gens s'imaginent généralement que les nanoparticules, c'est plus petit qu'une molécule. Non, c'est plus gros qu'une molécule, mais c'est beaucoup plus petit qu'un globule
rouge. D'accord. Et comment l'administre-t-on alors?
Alors, on peut l'administrer par voie intraveineuse. Et actuellement, il y a des travaux qu'on est en train de faire pour voir si on ne peut pas aussi administrer ces endorphines sous forme de nanoparticules par d'autres voies d'administration, notamment des voies, la voie cutanée.
Parce que là, sinon, ça se fait uniquement en milieu hospitalier.
Alors oui, mais vous savez, pour faire la preuve de concept, il faut d'abord montrer ça marche par voie intraveineuse. Mais on va essayer de trouver d'autres voies d'administration. Bon, ça, c'est les travaux de recherche que l'on fait actuellement.
Et on va continuer à parler gestion de la douleur et traitement aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1.
Et si les douleurs pouvaient aussi être inhibées grâce à l'utilisation d'impulsions électriques, c'est tout le travail de Sublimed. À tout de suite. Aux côtés des chefs d'entreprise et de leurs équipes, AXA Prévention vous présente La France Bouge. Et cet après-midi, dans La France Bouge, on parle de la douleur et des innovations pour mieux la gérer. Si vous avez envie de nous en parler, de réagir ou de poser vos questions à nos invités, écrivez-nous sur Twitter, hashtag Europe 1, ou alors appelez-nous, Raphaël, au 3921. Et on apprend à gérer la douleur avec des innovations françaises aujourd'hui. Bonjour Nicolas Karst.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président cofondateur de, alors on dit Sublimed à la française, qui a développé ActiTense. C'est une solution qui génère de faibles impulsions électriques pour inhiber les fameuses douleurs chroniques dont on parle depuis tout à l'heure. Vous avez toujours voulu être entrepreneur. Pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé dans ce domaine-là particulièrement?
Alors c'est vrai que j'ai toujours voulu être entrepreneur. J'avais ça en moi. Pourquoi le médical? Parce que je pense qu'on peut avoir un vrai impact. C'est quelque chose qui est important pour moi. Il y a cet impact, ça sera pour tout le monde. C'est-à-dire, on travaille pour nos enfants, mais on travaille aussi pour nos parents et on travaille pour nous, finalement. Donc, tout le monde sera confronté un jour à un problème médical. Et j'estimais que c'était vraiment une cause serviable.
Oui, parce que vous étiez ingénieur de recherche, hein, c'est ça. Et puis finalement, vous avez décidé de vous lancer dans votre propre aventure entrepreneuriale et de créer de l'emploi également. C'est important de le signaler. Comment est-ce que vous vient l'idée justement de travailler sur ces dispositifs de neurostimulation électrique?
En fait, comme vous l'indiquiez, j'étais chercheur au sein du CEA, donc un institut de recherche à renommée mondiale.
À Grenoble.
À Grenoble, effectivement. Et quand j'ai voulu créer cette société dans le domaine du médical, j'ai eu la chance de rencontrer tout un tas de médecins. Et au cours de mon petit parcours où j'ai rencontré ces médecins, j'ai rencontré le docteur Jean-Pierre Alibeux, qui est l'ancien chef de service du centre antidouleur de Grenoble. C'est un médecin qui était très orienté non médicamenteux déjà. Donc c'est un centre qui a été créé au début des années 2000. Il a toujours eu cette envie de pousser des thérapies non médicamenteuses. Et à cette époque-là, il m'a présenté une thérapie qui s'appelle la neurostimulation électrique transcutanée. Donc le principe est simple, on va venir stimuler électriquement le système nerveux pour en fait remplacer le signal douloureux.
Oui, et c'est une thérapie qui existe depuis longtemps aussi, hein, les années 60.
Oui, à nouveau, c'est une thérapie qui a plus d'une quarantaine d'années, qui fonctionne assez bien, qui est efficace. Le problème aujourd'hui avec les dispositifs médicaux qui peuvent générer cette thérapie, c'est qu'ils sont composés de gros boîtiers, donc relativement encombrants, reliés à des longs câbles, donc qui vont entraîner des gènes physiques, psychologiques, qui vont stigmatiser les patients douloureux chroniques. Et donc, ce traitement est finalement rapidement abandonné par les patients malgré l'efficacité.
Alors justement, vous avez réglé en quelque sorte le problème puisque vous avez fait un patch, c'est ça ? Comment ça fonctionne ?
C'est ça, donc l'idée c'était de miniaturiser ce produit et on en a fait un patch qui va être directement porté sur la personne, sous les vêtements et qui va être
qui est avec nous sur europe1.fr.
Donc voilà. Donc en fait c'est flexible, donc on va pouvoir le mettre sur différentes zones du corps humain. Un point qui est important, c'est que la zone qui va être stimulée sera indiquée par le médecin. Donc on est vraiment sur un dispositif médical prescrit par un médecin.
Donc le médecin détermine la zone où poser le patch.
C'est
et
ça.
Ensuite, qu'est-ce qui se passe ?
Ensuite, le patient rentre à la maison avec son produit, l'installe tous les jours et va l'utiliser soit tout au long de la journée, soit plusieurs fois par jour. Donc c'est là où c'est important d'avoir quelque chose qui soit le plus miniaturisé possible pour pouvoir accompagner le patient. C'est pour ça que ça s'appelle ActiTense, pour que le patient puisse avoir une activité.
Et alors, il y a deux types d'impulsions possibles, c'est ça ?
C'est ça. En fonction de la fréquence à laquelle on va stimuler, soit une basse fréquence, soit une haute fréquence, on va avoir deux effets thérapeutiques différents. Un premier effet qu'on va appeler gate control, qui va être en fait du on-off avec la douleur. C'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on fait quand on se cogne. Quand on se cogne, vous frottez sur la zone où vous êtes cogné. Et finalement, le temps où vous frottez, ça va diminuer la douleur. C'est le fameux bisou magique qu'on fait à nos enfants.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Et en fait, il y a un vrai effet physiologique derrière. Et donc, ça permet de faire, encore une fois, du on-off avec la douleur et d'enlever ou diminuer la douleur pendant le temps d'utilisation du produit. Par contre, une fois qu'on arrête de l'utiliser, cet effet est terminé. D'où l'importance d'avoir la possibilité d'avoir un second effet. Et là, on en revient à ce qui a été dit avant, avec la production d'endorphines cette fois-ci, donc à une autre fréquence de stimulation, qui permet d'avoir un effet après la stimulation.
Gilles Van Der Potten.
Oui, votre solution, elle est déjà commercialisée, elle est sur le marché, on la trouve dans une quarantaine de pharmacies en France. Mais alors, quel est le positionnement en prix ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Est-ce que c'est accessible à tous ?
Alors, j'espère qu'on est présent dans plus que 40 pharmacies. Je pense que aujourd'hui on a
votre carte de France.
Aujourd'hui on a plus de 3000 patients qui l'utilisent.
Oui, et puis vous êtes remboursé par la sécurité sociale.
Remboursé par la sécurité sociale, mais effectivement, d'accord, on a des points un peu plus clés. C'est la quarantaine dont vous parlez. Mm-hmm. Aujourd'hui, donc on est remboursé par la sécurité sociale et le prix public conseillé de notre produit est de 350 € TTC.
Elisabeth, je crois que vous avez trouvé d'autres innovations en matière de gestion de la douleur.
Plein. Vous avez par exemple.
C'est une bonne nouvelle.
P3 Innovation. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est du textile antalgique. C'est une start-up de la plaine de l'Ain qui fabrique des vêtements qui sont censés apaiser les douleurs inflammatoires, notamment les douleurs liées aux règles, aux migraines ou encore à l'arthrose. Parmi les premiers produits qui ont été confectionnés pour tester cette efficacité du textile, il y a eu des culottes. Plusieurs gynécologues en ont proposé à des patientes qui souffraient de règles douloureuses de tester ces sous-vêtements antidouleurs et le résultat, c'est que 8 fois sur 10, la sensation de douleur est atténuée. Pourquoi ? Parce qu'il y a des minéraux qui sont intégrés à la fibre du textile et ces minéraux jouent un rôle important dans la douleur. Ils restaurent une sorte d'équilibre entre l'acidité, avec l'acidité de l'eau contenue dans nos cellules et donc ce serait une question de pH. Vous acquiescez, hein, ça vous semble probable ?
Possible.
Ouais. Voilà. Et les prix varient de 30 à une centaine d'euros. Il y a des gants contre l'arthrose, un bandeau contre les migraines. Hein. Ce sont des textiles technologiques qui ont obtenu d'ailleurs plusieurs agréments. Donc c'est très sérieux.
On reste ensemble et on continue à parler gestion de la douleur aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h37.
Europe 1.
Et on attend vos questions, vos témoignages. 3921, Twitter, hashtag Europe 1. La France bouge avec vous. À tout de suite. Comment gérer la douleur ? On en parle cet après-midi dans La France bouge, Raphaël, avec vos invités. Nous sommes avec Jacques Husser, PDG et cofondateur de Remedy Labs, qui a mis au point le premier stimulateur d'endorphine par onde millimétrique à usage individuel pour la douleur. Le professeur Patrick Couvreur, professeur de pharmacie à l'université de Saclay, qui a mis au point, qui est en train de travailler sur les nanomédicaments pour le traitement de la douleur sans addiction. Et Nicolas Karst, président cofondateur de Sublimed, qui a développé ActiTense, une solution qui génère de faibles impulsions électriques afin d'inhiber les douleurs chroniques. Notre coach, c'est Gilles Van Der Potten, directeur de Reporters des Sports et de la France des Solutions. Évidemment, Elisabeth Assayag est à mes côtés. Nous avons, je crois, une question sur Twitter. Céline.
Oui, Marc, hashtag Europe 1, qui demande, vos solutions sont-elles efficaces sur tout le monde ou faut-il une prédisposition particulière ?
Ah,
Bonne question.
Alors, il faut savoir, je peux peut-être répondre, il faut savoir qu'il y a différents types de douleurs. Il y a des douleurs neuropathiques, il y a des douleurs inflammatoires, etc. etc. Alors, en général, il faut avoir des outils thérapeutiques qui sont diverses, qui sont adaptés au type de douleur. Alors, en ce qui concerne les nanomédicaments, pour pouvoir arriver au niveau du site d'action, au niveau du site douloureux, il faut, au stade où on en est dans tous les cas, avoir une réaction inflammatoire. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une réaction inflammatoire, vous avez une augmentation de la perméabilité des capillaires. Et ça permet, un peu comme un tuyau qui est crevé à certains endroits, ça permet aux nanoparticules d'extravaser, de diffuser à l'endroit du tissu où on a cette augmentation de perméabilité capillaire. Et donc là, c'est surtout de la douleur inflammatoire.
Elisabeth, je crois que vous avez trouvé aussi des systèmes pour nous aider, parce que ça aussi, c'est un vrai problème, à mesurer la douleur immédiatement.
Oui, ça s'appelle Lucine. C'est une application qui s'adresse aux personnes qui souffrent de douleurs chroniques. On peut l'utiliser en complément d'un dispositif médical et pour analyser et soulager les douleurs quotidiennes sans médicaments, sans effets secondaires. Comment ? Eh bien, l'utilisateur se connecte à la plateforme, il répond à un questionnaire, et il y a une caméra qui est utilisée dans l'application. Et de son côté, elle utilise des techniques de reconnaissance faciale pour détecter des signes extérieurs de douleur. Une fois qu'il a tout enregistré, il y a un soin personnalisé qui est alors proposé. Ça peut prendre la forme de stimuli sonores, visuels. Ça peut être un serious game. Qui stimule le cerveau, ça détourne l'attention et ainsi la douleur baisse immédiatement. Finalement, ça ne fait qu'actionner les mécanismes naturels, comme ce que vous disiez tout à l'heure, hein, avec la production d'endorphines. Et ça, c'est grâce au digital et grâce à cette application qui s'appelle donc Lucine.
Question développement pour tous les trois. On a vu que votre projet, Nicolas Karst, était lancé. Vous avez d'autres choses qui sont en cours, d'autres développements en train d'être imaginés?
Alors, on a deux types de développement. On a des développements qui sont plus orientés cliniques pour aller démontrer sur certaines pathologies l'efficacité de notre produit. Et justement, sur ces aspects cliniques, on a une étude clinique en cours sur la partie douleur de la gonarthrose, donc l'arthrose du genou, qui touche énormément de personnes, et pour laquelle les résultats cliniques seront disponibles d'ici quelques semaines. Donc, c'est très encourageant. Et puis après, on a d'autres développements qu'on va appeler plus technologiques, où effectivement, on commence à réfléchir à comment automatiser et optimiser le traitement par neurostimulation. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, le médecin va vous donner ce traitement, mais il n'est pas personnalisé. On pense que l'avenir de la neurostimulation, c'est d'aller vers un traitement pour chaque patient douloureux.
Professeur Couvreur, même question. On a parlé effectivement du passage à l'humain, hein, ce qui nous intéresse, à l'homme en tout cas, c'est pour quel horizon ?
Oui, alors dans le domaine du médicament, contrairement au domaine du dispositif médical, les développements sont beaucoup plus longs. Il faut savoir que le développement d'un médicament, c'est à peu près, grosso modo, un milliard d'euros. Un médicament avant la mise sur le marché, les dépenses qui sont faites, donc c'est quand même extrêmement important. Et puis ça prend du temps parce qu'il y a tous ces effets toxicologiques, pharmacologiques qu'il faut évaluer, analytiques aussi, d'abord en préclinique avant de passer à la clinique. Et puis vous avez des essais cliniques de phase 1, de phase 2, de phase 3, avant la mise sur le marché du médicament. Bien sûr. Puis après, vous avez encore la pharmacovigilance pour évaluer s'il n'y a pas des effets secondaires quand on applique ça à une population beaucoup plus importante. Donc, vous voyez que c'est très long.
Jacques Husser, même question. Hein, le développement, quel est-il aujourd'hui ?
Oui, mais nous, en fait, on a effectivement passé la première année à développer la technologie elle-même qu'on a aujourd'hui disponible, qui permet de faire les essais cliniques. Là, on est dans la phase clinique. Avec de nombreuses études cliniques, hein, sur l'arthrose, sur la migraine périchirurgicale, où en fait notre objectif c'est de chercher l'indication qui sera l'indication principale qu'on retiendra en fait pour appliquer notre technologie à cette indication, que ce soit la migraine ou que ce soit l'arthrose ou peut-être encore d'autres. Donc en gros, on va dire dans les deux ans qui viennent, on aura des résultats cliniques qui permettront de finaliser le produit adapté pour la mise sur le marché.
Merci à tous les trois d'être venus. Merci. Nous parler gestion de la douleur aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h46.
Europe 1.
Restez avec nous, vous êtes de plus en plus nombreux à choisir de faire vos trajets à vélo. On va s'intéresser à CIFAC qui crée des cadres depuis 1982. C'est l'entreprise qui va bien. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est là, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est Sifac. Bonjour, Aymeric Lebrun.
Bonjour, Raphaël Duchemin.
Merci d'être avec nous. Sifac, ça signifie cycle de fabrication artisanale de cadres. C'est ce que fait cette entreprise depuis 1982. Et vous, vous avez repris cette entreprise, mais, il y a une histoire. Parce que la famille est passionnée par le vélo.
Oui, c'est une longue histoire et je pense que 10 minutes ne suffiront pas pour tout vous raconter.
Votre grand-père a quand même pédalé avec Jean Robic.
Oui, mon grand. Vous connaissez tout. Ah, oui. Et mon père a failli passer professionnel. Et moi, j'ai eu l'espoir d'être un coureur professionnel, mais un espoir rapidement, finalement, qui a rapidement disparu. Mais j'ai toujours été passionné de vélo et j'ai même su faire du vélo avant de savoir parler.
Oui, vous dites j'ai été biberonné au bidon.
Voilà, complètement. C'est-à-dire que je ne connaissais pas les biberons, je connaissais les bidons. Et c'est vrai que j'ai vu mon père faire du vélo et je pense que j'ai toujours, depuis l'âge de 5 ans, adoré le vélo et j'ai rêvé de travailler dans le vélo. Et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui.
Oui, parce qu'à 7 ans, vous avez votre première licence et puis, en 2002, vous arrivez dans l'entreprise.
Chez Sifac, oui.
En
tant que salarié. Et c'est vraiment le fondateur, Francis Quillon, qui m'a recruté à ce moment-là, au moment où il était en train de céder son entreprise à un groupe.
C'est un personnage quand même. Hein,
c'est un génie. Enfin, Francis Quillon est vraiment un génie, mais qui avait beaucoup de qualités humaines et professionnelles et qui a surtout su transmettre son savoir-faire, parce qu'aujourd'hui, vous imaginez qu'il n'est plus dans l'entreprise. Pour autant, il vient une fois par mois boire le café, transmettre, encourager, récompenser. Et je pense que c'est une de ses qualités, au-delà du génie qu'il avait dans les mains, c'est d'avoir transmis sa passion. Parce que moi, si vous voulez, aujourd'hui, on n'a pas du tout le même parcours. C'est un autodidacte, comme moi, j'ai plus un parcours,
oui,
je dirais, scolaire.
Il a commencé tout seul dans son garage.
Complètement, mais comme les plus belles histoires.
Fabriquer
les cadres de vélo à partir de tubes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si on imagine qu'un cadre de vélo, c'est un objet simple pour tout le monde, il y a beaucoup, beaucoup de savoir-faire derrière. Surtout que nous, on est sur une fabrication un peu particulière, vu qu'on fait du sur-mesure. Donc, on est tout le temps en train de faire du prototype. Et c'est quelqu'un qui a commencé tout seul dans son garage. Et finalement, son savoir-faire et son talent étant reconnus, les plus grands professionnels sont venus le rencontrer, Richard Virenc, Frank Vandenbroek, Laurent Fignon. Il est sorti du garage et puis il a commencé à créer Sifac, qui a vraiment s'est installé là où on est en 1986 et que j'ai repris moi en 2008 suite à des difficultés que rencontrait le groupe qui avait racheté Sifac.
Pourquoi est-ce que vous avez envie de reprendre? Qu'est-ce qui fait que vous devenez entrepreneur?
Ah, c'est une belle question. Je pense que c'était d'abord l'objectif de sauver ce savoir-faire. Et c'est vrai que ça peut paraître modeste, mais j'avais pas du tout la vocation de devenir un chef. Et ça a été pour autant l'une des plus grandes difficultés, ça a été de devenir le patron de mes anciens collègues. Et donc il a fallu faire ses preuves. Et je pense que finalement, le fait d'avoir repris la barre du tribunal, ça a été une formation accélérée, parce qu'on a dû finalement échanger avec des administrateurs. Et ils ont vu en moi finalement quelqu'un qui avait sauvé l'entreprise.
Vous avez 10 artisans à l'atelier, ouais. Vous avez 5 ateliers, c'est ça?
C'est ça, oui.
Et il y a l'atelier carbone, l'atelier où on peint les vélos. Vous dites, on a 30 000 couleurs disponibles.
Oui, en fait, quand on parle de sur-mesure, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un terme qui est souvent utilisé, parce que ça donne du sens, finalement, à l'offre. Aujourd'hui, c'est vraiment l'ADN de l'entreprise. Et dans le sur-mesure, il y a la morphologie du cycliste qui est pris en compte, le cahier des charges, le profil du cycliste, la pratique, les matériaux. Mais il y a aussi la peinture, et aujourd'hui, on a plus de 30 000 couleurs. Sachant qu'on fait les pochoirs en interne, donc c'est vrai qu'on a une possibilité, on est capable de peindre des fleurs sur un vélo, et en fait, les limites de notre sur-mesure, c'est l'imagination du client.
Ouais, 2 vélos vendus par semaine, une centaine dans l'année, ouais. Parce qu'il y a ce sur-mesure, c'est 3 500, 4 000 euros minimum. Hein,
c'est le prix, j'allais dire entrée de gamme, même si je ne suis pas sûr que ce soit l'entrée de gamme.
Ça peut aller jusqu'à 12 000 euros un vélo.
Il n'y a pas de limite. Je vous avouerai que j'ai dit 12 000 euros, mais il n'y a pas de limite, parce qu'après, quand on est dans du sur-mesure, finalement, on laisse le client décider de la limite.
Gilles, notre coach.
Vous êtes clairement dans l'artisanat.
Clairement, oui.
Mais je me posais la question de l'industrie du cycle aujourd'hui, ouais. En France. On a des fleurons que sont Peugeot, MBK. Est-ce qu'ils produisent toujours en France?
Non.
Et est-ce qu'ils sont vos partenaires?
Et c'est plus des... Non, alors... Dans le passé, ça a été des partenaires, parce que quand on était au départ sous-traitant et on a fabriqué pour Peugeot à l'époque de Festina ou pour MBK à l'époque de Cofidis, les vélos qui roulaient sur le Tour de France sortaient de nos ateliers. Donc finalement, on était le petit sous-traitant dans l'ombre, et c'est là où on a acquis nos lettres de noblesse. Et puis après, la série était fabriquée en général en Asie et était revendue dans les magasins. Aujourd'hui, ce sont des assembleurs, c'est-à-dire qu'ils vont partir de cadres fabriqués en Asie et puis monter les composants, quand nous on fabrique vraiment le cadre à partir de tubes.
Votre rêve pour le prochain Tour de France, tiens, par exemple, ou le vélo qu'on va voir qui sera sorti de chez vous?
Le rêve, alors, c'est un rêve un peu plus modeste, non, c'est de continuer à devenir champion paralympique. Parce qu'on fabrique beaucoup de tandems, c'est aussi une de nos spécificités. Et on a une dizaine de fédérations dans le monde qui, finalement, nous commandent des tandems. Et là, il y a Tokyo qui arrive, et on aura quelques tandems, et j'aimerais voilà, qu'on continue à récolter quelques médailles.
Et il y aura quelques-uns de vos vélos sur la grande boucle, cette année?
Non, il n'y en a plus. Il y en a eu dans le passé, mais aujourd'hui, il y en a eu, ouais.
La belle entreprise du patrimoine vivant, ça aussi c'est important depuis 2012.
C'est une vraie fierté et c'est vraiment une vraie reconnaissance et de tout le savoir-faire de nos artisans. Et je pense qu'au-delà même de la communication externe, c'est quelque chose qui a vraiment renforcé et rendu très très fiers tous nos artisans parce qu'on a vraiment des artisans passionnés et ça permet vraiment d'identifier l'entreprise et sa singularité qui on est toujours entre l'innovation, la tradition, le local et l'international au niveau de nos ambitions.
Bravo en tout cas pour repris cette entreprise il y a 10 ans hein, désormais, 10 ans pour CIFAC et votre direction donc, qui a permis de sauver cette belle entreprise de cycle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Gilles Van Der Potten qui était notre coach.
C'était un plaisir.
Comme
merci
d'habitude.
À vous.
Elisabeth, Céline, rendez-vous demain.
À demain, Raphaël.
Midi sur Europe 1.
À demain, c'était Raphaël Duchemin, c'était La France Bouge avec AXA Prévention, accompagnement des chefs d'entreprise, santé et sécurité des salariés. Retrouvez un dispositif de prévention gratuit sur le site axaprévention.fr et dans un instant, restez là, on te la raconte sur Europe 1.